Vous écoutez
RMC.
Simonet, hey, raconte-nous un peu l'Ajax de Bergame.
Bah écoute, c'était beau, même si sincèrement c'était pas un des meilleurs matchs de l'Atalanta cette saison. Ils ont fait plein d'erreurs défensives, des positions, même devant le but n'ont pas été extraordinaires. C'est l'Atalanta qu'on connaît, qui joue toujours à l'avance, qui cherche toujours de marquer des buts, qui fait plaisir. Au-delà du fait que ce soir à la télé italienne, on a parlé énormément de ce que a fait du bien à tout le pays de passer une soirée comme ça, et ça c'est vrai, mais l'Atalanta ne s'arrête pas ici pour moi. C'est vrai qu'ils ont montré d'être parfois un peu naïf sur certaines situations, et plus ça avance en cette compétition, plus ça va être difficile, mais on a vu vraiment des choses comme d'habitude, l'engagement, les jeux vers l'avant, la verticalité, les techniques, parce qu'après on parle souvent du pressing de Gasperini, de la capacité du jeu collectif, mais aussi les individualités. Ilicic a été sublime, je trouve que les deux milieux Freuler et Deron ont fait un match de quantité et qualité. Gomez, pour moi, c'est toujours l'homme qui fait tourner toute la baraque. Je pense que j'ai terminé les mots pour de cette saison pour dire combien ça donne du plaisir voir l'Atalanta, mais il faut rappeler une chose, ils n'ont pas commencé hier. C'est un projet avec Gasperini, ça fait 4 ans qu'ils jouent ensemble. Ils ont changé beaucoup de joueurs, mais dans cette année-là, l'Atalanta s'est aussi améliorée à niveau d'âge, a grandi. Il y a quelques années, c'était l'équipe la plus jeune du championnat. Cette année, comme moyenne, en Serie A, c'est 13e. Donc, ce n'est plus l'équipe des jeunes. Mmh. C'est une équipe qui commence à avoir de l'expérience aussi à jouer ensemble.
Et puis il faut rappeler leur parcours quand même, Simonet, parce qu'ils avaient très très mal démarré la phase de poule. Moi, je me souviens que tu nous disais, bon là,
zéro point.
Voilà, ils découvrent,
ouais. 4-0 sur le premier match.
Ils sont pas au niveau, tout ça. Et puis en fait, il y a eu un renversement de situation qui est dingue.
Bah, c'était difficile de s'habituer. Je pense que la Ligue des Champions, quand même, c'est un choc à niveau de pas seulement d'expérience, mais vraiment d'engagement, d'attitude, de haut niveau. Et même face à Zagreb, on part d'une équipe qui a commencé avec un 0-4 à Zagreb et a fini avec une victoire avec 4 buts d'écart sur les doubles confrontations face à Valence. Donc oui, il y a un parcours. Gasperini aussi a bien travaillé, mais maintenant qu'ils ont compris qu'est-ce que c'est la Ligue des Champions, je pense qu'on va continuer à voir. Je te disais dès l'âge, seulement pour dire, en 2016-2017, c'était la deuxième comme moyenne d'âge en Serie A. Voilà. Et là, cette saison, c'est la 13e. Donc, avec les temps, des joueurs sont devenus plus importants, plus âgés. Ils sont restés à l'Atalanta. Certains sont partis. Mais quand même, l'investissement qui a fait l'Atalanta aussi, c'est de prendre des joueurs un peu plus âgés, comme Zapata, plus expérimenté.
Et puis, le héros du soir qui a mis 4 buts, là.
Il a 32 ans.
Ouais, je fais exprès de pas dire son nom parce que je voulais que, tu vois, que tu le dises toi et tout, parce que, les investissements de l'Atalanta pour le recruter quand même, c'est énormément de millions pour le prendre quand même. Hein.
Bah, Ilicic a été payé
65 millions le transfert.
je sais pas si c'était 6, 7 ou 6.
Je crois que c'était 5,5.
Voilà, il est arrivé de la Fiorentina.
Lyon a acheté 20 millions Toko Ekambi, c'est certainement supérieur.
Les joueurs plus chers, Zapata a payé 20 millions. L'histoire de l'Atalanta,
je dois pas savoir, peut-être. Mais ça doit être mieux. Toko Ekambi, ça doit être beaucoup mieux que Ilicic.
C'est quand même bien d'avoir James Bond dans ton équipe, je trouve. C'est stylé.
Écoute, moi, je comprends pas comment on voit et on organise le foot dans ce pays. Plus je vois les Coupes d'Europe, c'est à chaque fois que je vois les Coupes d'Europe, que ce soit Europa League ou Ligue des Champions, que je me dis que c'est pas qu'on est largué, c'est qu'on est à des années-lumière.
Ah, attends, Daniel, on va en parler. Mais parce qu'on n'est pas obligé toujours de mettre les exploits des autres en rapport avec nos
Monaco a fait des exploits. Moi, je vivais en France. On peut le faire, les exploits de
pas
Monaco.
Tout de suite. Ouais. D'abord, parlons un peu du match et tout, puis après, on pourra mettre en rapport. Parce que c'est vrai qu'il y a. J'ai aussi beaucoup de messages qui disent nos clubs français doivent s'inspirer de ça, etc.
Et le problème, c'est qu'à un moment, tu es obligé d'y penser. Parce que nous, on suit un football et on regarde les autres en Coupe d'Europe.
Le problème, c'est que toi, tu vas trop vite. Tu veux tout de suite mettre ça en rapport avec les Français.
Oui, et puis tu oublies aussi. Tu oublies certaines époques.
On va voir si on oublie, mais je ne pense pas qu'on oublie, moi.
Ben si, t'oublies. Ce que je veux dire, c'est que la surprise à Atalanta, ils n'ont jamais été à ce niveau-là. Tant mieux pour eux, parce qu'ils bossent bien, ils le méritent. Mais ça n'empêche qu'il y a des clubs français qui dernièrement... Monaco, par exemple,
en 2017.
Monaco n'était pas programmé pour ça en 2017,
non,
c'est ça?
C'est là que vous déconnez complètement. En fait, vous ne comprenez pas. Monaco, dans notre football, c'est l'équivalent de si... Inter, Milan, Juve fait un gros résultat, ou Barça, Real, Atlético. Monaco, dans l'histoire de notre football, c'est une grosse équipe.
D'accord.
Qui, épisodiquement, a fait des belles aventures.
Notre football, justement, chez nous, ça n'arrive jamais.
Mais cite-moi les exemples.
C'est arrivé au Auxerre dans les années 90.
C'est quoi les exemples que tu vas me citer?
Des clubs portugais qui en Ligue Europa
je te parle de la Coupe d'Europe en général,
la Ligue des Champions, c'est souvent les gros qui y vont. Je ne comprends pas comment tu peux t'obstiner à essayer de défendre notre football quand tu vois l'Atalanta ce soir qui recrute Ibisic, l'Atalanta c'est la Ligue des Champions, ça vaut le coup de venir de Madrid, c'est pas l'Europa League.
Mais
si, c'est la Coupe d'Europe. C'est ça qui est important.
Tu joues sur les mots.
Je joue pas sur les mots.
N'allons pas trop vite. Fred.
Alors, bien entendu, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit sur l'Atalanta. Vous savez que le symbole de Valence, c'est une chauve-souris. Vous le voyez d'ailleurs sur son écusson.
Tout à fait. Hein,
moi, je vais essayer de plagier.
Je passe son micro ici.
Moi, j'ai toujours l'habitude de.
Prends l'exemple sur
tripoter.
Tu vas pas le prendre dans la main, tu vois.
Voilà. J'ai essayé de plagier un célèbre sketch de Jean-Marie Bigard. Imagine que la chauve-souris. Parce que à partir du moment au bout de la troisième minute.
Toi, tu connais les sketchs de Jean-Marie Bigard.
Oui, j'aime bien, ouais.
D'accord.
Moi, je sais pas, c'est pas très politiquement correct, mais il y en a certains qui sont assez rigolos.
On peut à la fois écouter Léo Ferré.
Exactement.
Mais c'est ce qui s'appelle être un homme cultivé.
Merci Daniel.
Et pas être un homme.
Ah, ça que j'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas sectaire. Je suis ouvert à tout.
Je pense.
Mais bon, imagine.
Si tu sais pas marier les deux, t'es un con généralement.
Merci, c'est un compliment.
Et oui.
Et bon, non, imagine que la chauve-souris, parce que franchement, je continue de penser qu'il y avait la place ce soir pour la remontada. Mais il fallait pas avoir Diakabi dans ton équipe, parce que c'est pas un. Non mais à la radio espagnole, parce que j'ai écouté le match à la radio espagnole.
D'ailleurs, il était sorti à la mi-temps. Hein,
oui, d'accord. Mais entre temps,
franchement, c'est un calvaire.
Et la réflexion des commentateurs espagnols de la radio Copé, c'était bon. Imaginons qu'il en ait provoqué qu'un seul. et ben, on aurait peut-être pu se qualifier aujourd'hui. Non mais ce qu'il y a de fou, c'est que. Bien sûr, l'Atalanta, etc. Mais ce soir, Valence, défensivement, avec Diakabi, c'est que tu te condamnes d'entrée, voilà.
Sur Diakabi, Daniel, tu dis oui, il est ici, c'est un club français un peu de l'autre côté. Mais quand même, soulignons que Jean-Michel Aulas a réussi la performance de le vendre 15 millions à Valence.
Ah oui, là, bravo.
Ça, c'est une sacrée.
Non, mais alors, il paraît que Valence a refusé.
Normalement, si tout le monde est là, il va pas jouer non plus.
Non, mais le problème, c'est qu'entre les blessés et les suspendus, comme Paulista qui est suspendu, t'es obligé de le faire jouer. Alors que Coquelin, qui était reculé, il fait plutôt un bon match. Il doit compenser. Mais c'est-à-dire qu'au bout de la troisième minute, tu te prends un pénalty. C'est-à-dire, c'est même pas au bout d'un quart d'heure alors que tu mènes 1-0 ou 2-0. Enfin, c'est-à-dire que c'est tuer la remontada dans l'œuf.
C'est une faute grossière, tellement grossière que.
Mais moi, la question que je me pose, et là,
c'est que t'as trop souvent l'impression que l'Atalanta peut marquer.
La remontée,
elle devient impossible. Ouais. Tu sais que à chaque moment où tu vas te découvrir un petit peu plus, eux, ils vont te punir.
Oui.
Parce qu'ils prennent beaucoup de risques, ils te déséquilibrent en permanence.
Mais Valence, contrairement à il y a trois semaines, a été une équipe plutôt efficace ce soir.
Ouais, exactement.
Tu vois, alors qu'il y a trois semaines, il y avait la place pour amener peut-être même un nul ou un 4-3, etc.
Déjà, c'est marrant que tu parles comme ça parce que je me suis revu le match ce matin, le match aller.
C'est vrai que
à 2-0 à la mi-temps, c'est un hold-up, quoi. Ils doivent marquer, ils ont des occasions plein. Et là, ils sont efficaces aujourd'hui, en effet. Ils font pas un mauvais match, Valence.
Justement, j'aimerais bien qu'on parle de ça. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à pire comme match, le biclo, etc. Et finalement, je trouve qu'on a vu un match.
On a vu un beau match. Passer le choc auditif.
Une fois que t'es dans le truc.
Un quart d'heure après tu vois.
Voilà, parce que l'Atalanta a aussi une façon de jouer qui ouvrait le jeu. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus défendre et que Valence, il y a eu des erreurs. Mais enfin, puis moi, j'aimerais souligner quand même. Voilà, je vais pas faire mon Daniel qui ramène tout à la Ligue 1, mais je trouve que Kevin Gamero, ce soir, dans un match difficile, il met quand même 2 buts en 8e de finale d'une Ligue des Champions.
Exactement.
Et tu vois, c'est pas rien, alors que.
Gamero, s'il joue en Ligue 1.
Il est dans les 3 des buteurs.
Non. Gamero, s'il joue en Ligue 1, moi, je te garantis qu'il met pas 10 buts.
Il en met moins.
C'est incapable. Il est
dans le
jeu de nos équipes de Ligue 1 et dans le profil de nos équipes, Gameros, il peut pas jouer.
En tout cas, moi ce que je peux te dire, parce que je connais
jouer évidemment au PSG, mais c'est tout.
Mais moi je te dis, je connais bien Kevin du temps où il était à l'Atlético. Bon, c'est quelqu'un qui voulait surtout pas venir en Ligue 1, qui a tout fait pour rester en Espagne. C'est-à-dire que quand il était à Séville, il a une offre de l'Atlético et il m'avait dit, de toute façon, si jamais c'est l'Atlético, ça se fait pas, ça s'était pas fait, je serais resté à Séville. Et après, il part de l'Atlético, il va à Valence, quoi.
Non, en Liga.
Mais je trouve que c'est plutôt bien de souligner quand même qu'un joueur qui a été un espoir quand même. C'est quand même un joueur qui était au PSG, hein, sur lequel à un moment on pouvait espérer.
Il était dans la rotation du PSG. Quand ils éliminent Valence en 8e, oui, c'est lui qui marque.
Exactement. Ça, c'est vrai. Oui.
Quand ils éliminent Valence en 8e en 2013, c'est lui qui marque.
Bah, la première année, il a beaucoup joué. C'est la deuxième année qu'il a moins
avec
joué.
Avec Ancelotti. Il est revenu et il est revenu en équipe de France il y a 2 saisons. Voilà, moi, je trouve que c'est un bon joueur. Donc moi, ça m'a fait plaisir pour lui. Voilà, parce que il faut bien trouver des sujets intéressants dans ce match où finalement, c'est quand même 2 victoires de l'Atalanta. Le résultat, il est là, quoi. Ouais. Mais et j'en terminerai là-dessus. Quel gâchis Valence quand même. Quel gâchis. Parce qu'en début de saison, il y avait un entraîneur avec qui ça fonctionnait très bien. Mmh. Il y avait un bon effectif, etc.
Et à partir il y a eu une gestion de club.
Mais il y avait un directeur général. C'est-à-dire que si on a le temps une minute pour rappeler pour ça. Ouais. C'est-à-dire que il y a 3 ans. Le propriétaire de Valence, Peter Lim, un milliardaire de Singapour, vous savez, il avait mis Level à un moment comme entraîneur, etc. Il faisait n'importe quoi. Il a parlé à Tebas, Javier Tebas, en disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche. Il lui dit déjà, tu vas prendre un bon directeur général espagnol qui connaît. Appel de ma part. Alemany, qui était l'ancien président de Matteo Alemany, ancien président de Majorque. Tu prends, c'est un homme d'affaires, il connaît le foot, voilà. Directeur général. Paf, il commence à installer le truc, ça commence à bien marcher. Il fait venir Marcelo Garcia Toral. Qu'est-ce qu'ils font? Ils terminent 4e de la Liga, ils se qualifient pour la Ligue des Champions. Ils gagnent la Ligue du Roi, ils gagnent la Coupe du Roi contre Barcelone. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a appris depuis. Vous savez pourquoi? À la fin, l'entraîneur s'est fait virer parce que le président avait dit qu'il fallait pas jouer la Coupe du Roi, qu'il fallait tout miser sur le championnat. Et donc le président a reproché à l'entraîneur d'avoir gagné la Coupe du Roi.
C'est quand même
un truc de malade, quoi. C'est-à-dire qu'en disant t'as pas respecté mes ordres, parce qu'il fallait tout miser sur le championnat. Et finalement, les relations se sont dégradées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré le directeur général, il a viré l'entraîneur. Et on en est là aujourd'hui. Et on sent que c'est une équipe.
On sent,
même dans leur jeu. La gestion du club, on la voit dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un peu de n'importe quoi, ça peut marquer, mais en même temps, ça prend des buts et ça perd. Sincèrement, au niveau du tirage au sort, on se disait, c'est largement jouable et c'est équilibré. Et finalement, il y a 2 victoires totalement méritées de l'Atalanta.
Simonet, j'aimerais que tu nous parles un peu de Gasperini, là, qui d'ailleurs est actuellement en conférence de presse avec son profil de professeur de faculté. Tu sens l'intellectuel, quoi, qui est là, sûr de lui. Parle-nous un peu de lui, de sa méthode. Tu en as déjà parlé dans l'after, mais enfin là, ce soir, il faut le mettre en valeur quand même.
Mais oui, alors Gasperini, déjà, il faut dire que son exploit avec l'Atalanta, c'est pas une surprise, c'est pas un entraîneur qui réussit pour la première fois avec cette équipe. Il avait été capable d'amener à la 5e place le Genoa en saison 2009-2010. C'est un entraîneur qui a toujours marqué ses équipes avec tout beau jeu, même s'il y a eu des passages un peu avides. À Palerme, n'a pas laissé des grands souvenirs. À l'Inter, il est parti.
Donc il a pas très, réussi très partout non plus.
Non, il n'a pas réussi partout.
Après, quand il est à Palerme, c'est l'époque où Zamparini changeait d'entraîneur à la moindre défaite, quoi. Donc, bien sûr. C'est un entraîneur qui a besoin de temps pour que tout le monde adhère à ce qu'il veut faire.
Confiance. Lui, quand il commence sa première saison à l'Atalanta, après 5-6 journées, il est à 17e en championnat. Il commence très très mal. On commence à parler de lui comme l'hypothèse de les virer. Et sur un match face à Napoli, après avoir gagné les matchs avant face à Pescara, sur un match face à Napoli, il commence à faire jouer les jeunes. Il fait mettre sur le banc de touche un peu les joueurs âgés, ceux qui avaient un peu des difficultés à accepter sa méthode, ses entraînements, ses idées. Il fait partir son Atalanta des jeunes avec une victoire face à Naples. Et ça démarre un peu comme ça. C'est un entraîneur qui a ce schéma 3-4-3 ou 3-4-1-2 qui cherche beaucoup de travail sur les côtés. C'est un entraîneur très exigeant. c'est pas très sympa, ça il faut le dire. C'est pas très sympa aux adversaires, c'est pas très sympa avec les supporters des autres clubs. Parfois il y a eu des il s'est plaint beaucoup sur les défaites. C'est quelqu'un qui vise parfois souvent l'arbitre.
Ah oui.
C'est pas un très bon perdant, non. C'est pas un très bon perdant, mais quand même, moi je suis quelqu'un qui lui pardonne tout parce qu'au moins sur le terrain il te fait voir des choses extraordinaires. La saison dernière, après quand il avait perdu la finale de Coupe d'Italie face à la Lazio, il était devenu fou pour des épisodes d'arbitrage. Mais vraiment, quand il était à cette saison, quand il allait à Florence à jouer la Coupe d'Italie, il a passé 90 minutes à se faire insulter. C'est pas très aimé par les autres supporters. Mais sincèrement, ce soir, je pense qu'il a fait totalement l'unanimité.
En fait, je résume, il a un côté un peu boulard, quoi.
Il a un côté un peu...
Comme tous les mecs qui ont cette façon de jouer, qui est un peu élitiste, exigeante, oui, où il revendique le beau jeu.
Une sorte de gourcuf à l'italienne.
Quand ça se passe pas bien...
Ouais, c'est un peu de côté Rudi Garcia.
Ce que lui a fait, c'est toujours pareil. Si, après, oui, tu dis qu'il faut pas comparer, mais ne comparons pas, parce que sinon, ça va être terrible, quoi. Donc, après, effectivement, oui, il est un peu mauvais perdant. Quand il perd, c'est l'autre à gagner, mais il a forcément moins bien joué que lui.
Oui, ça doit passer quelque chose parce qu'il a perdu. C'est pas la faute du jeu, c'est pas que l'autre a été vraiment meilleur. Il y a toujours un épisode, il y a toujours quelque chose qui allait contre lui. Mais comme j'ai dit, ça fait partie du
personnage. Très mauvais perdant quand tu joues comme ça. Voilà, regarde, nous,
je peux comprendre. Voilà,
on a Rudi Garcia. C'est pas un bon perdant, mais c'est pas un bon entraîneur non plus.
Même cette finale de Coupe d'Italie qu'il perd face à la Lazio, pour moi, l'Atalanta avait mieux joué. Après, il y a eu des épisodes un peu malchanceux. Et voilà, il a perdu, il n'accepte pas. J'espère qu'il ne va pas accepter de perdre en Ligue des Champions. Il va continuer à nous régaler comme ça. Et pour Iličić, on a parlé bien au début, mais pour vous dire, il est arrivé à 21 buts cette saison, dont 14 en 2020. Donc, il a bien commencé cette deuxième partie de saison et on va voir si ça continue. C'est toujours un joueur plus de deux matchs que des saisons. Parce que c'est les joueurs qui a fait un triplé, deux doublés, un quadruplé ce soir. Parfois, pour un mois, il est inconstant. Je me souviens un match cette saison. La saison dernière, il met un triplé en sortant de bande de touche en 20-30 minutes. Donc, c'est difficile de faire confiance à Iličić, on peut dire, généralement, ça n'a jamais été simple de faire confiance à Iličić sur une saison entière. Là, c'est sa meilleure saison. Et surtout, quand tu as un joueur comme ça, on l'a vu, en fin du match, il voulait sortir après les triplés. Il dit « Ah, j'ai mal. »
Oui, il n'est pas facile à gérer. Il l'appelle la grand-mère à Bergam. Il se fait tout le temps de douleur.
Oui, mais c'est ça, exact.
C'est sa façon, c'est son style de toute façon, et tu le vois. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui va faire énormément d'efforts. Et c'est vrai que quand ton équipe est un peu dans le dur, c'est un boulet.
Oui, mais après, ce soir, 85e minute, chose comme ça, on l'a vu faire un retour défensif quand il prend le ballon.
Il a le droit d'en faire, Simonet. Hein, c'est pas non, interdit. Mais
enfin, l'Atalanta a gagné 4-3.
Tout le monde court énormément. C'est une équipe qui est d'une générosité dingue.
Mais c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir ce style d'attaquant devant, parce que lui après, mais je pense que même ses coéquipiers font en sorte de toute façon d'accepter son attitude et comment il est. Le mec, il a un pied gauche magique.
Je serais quand même curieux de savoir combien il a couru ce soir. Ouais, je pense pas que ce soit qui se soit économisé.
Il a quand même un parcours étonnant, ce type-là. Parce
il s'économise quand même pas mal.
Donc, il joue en équipe de Slovénie, mais il a la double nationalité croate et il est né en Bosnie. Alors, c'est
un beau mélange.
Ça s'appelait la Yougoslavie.
Voilà, c'est ça. Et il a quand même joué très longtemps.
Je vous avais raconté qu'il avait été acheté pratiquement à la mi-temps du match de Coupe d'Europe entre Palermo et l'équipe slovène. Et le président Zamperini, c'était Maribor. Il était tombé amoureux de ces mecs. Il a dit on doit l'acheter à tout prix. Et pratiquement, c'était.
Ah, mais Zamperini, c'est acheté.
Il l'a acheté à la mi-temps.
C'était acheté à la mi-temps. À la mi-temps, il a parlé avec le club adverse. Il a dit bon, nous, ces joueurs, on va l'acheter.
Ça, c'est comme Valide avec Sergei Semak.
C'est un peu
Semak, il a attendu la fin du match.
Ah, il a attendu la fin du match. Bon, merci Simonet en tout cas. On s'est régalé avec l'Ajax de Bergame.
Ça c'est clair.
Ce soir.
Et
on
bonne chance, Simonet, pour le quart de finale. Moi, j'aimerais bien, tu vois, pour Simonet, qu'il y ait un petit Real Atalanta en quart de finale.
Bon, parce que toi, tu veux l'Atalanta surtout, ouais. Tu crois qu'on t'a pas vu venir?
Non, moi, je voudrais surtout que le Real se qualifie.
Comment le Real va être en quart?
C'est ça. Et comment ils vont être en quart?
Ah, bah, ça va être compliqué. Ah oui, parce que l'information importante, c'est que il y aura pas Courtois. Donc ouais, c'est Areola qui sera titulaire dans les buts du Real.
Ni Marcelo.
Après que Marcelo soit pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça sera Ferland Mendy. Donc deux Français.
Non
deux
mais plus Areola, de toute façon, tu nous as dit qu'il s'était bien acclimaté. Donc je pense qu'il sera à la hauteur demain.
Bah, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Mais
oui, alors, Simonet, t'es encore là?
Pareil.
Ouais, je suis.
Alors, juste quand même deux choses, parce que donc information du Real qui a donné Fred maintenant. Mais deux choses liées au huis clos et au coronavirus. On a appris ce soir de la bouche de Jean-Michel Aulas que le match Juve-Lyon se jouerait bien à Turin à huis clos. Simonet, est-ce que t'es étonné par cette organisation-là vu la situation actuelle de l'Italie là?
Non, je ne suis pas étonné. Je suis un peu étonné que ce soit Jean-Michel Aulas a communiqué ça, mais bon, ça devrait être plutôt la Juve à les communiquer, mais oui, ça ne me surprend pas. Non, on sait bien que dans les décrets ministériels, il y avait écrit que pour les compétitions internationales, c'était un peu.
Ouais, il y avait une exemption, en gros, pour la Coupe d'Europe, quoi.
Je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer entre Italie et France d'ici à ces jours-là. Comme on a dit avant.
Oui, parce que là, les vols sont suspendus.
Il n'y a plus un voleur français. Déjà, ils n'iront pas avec Air France, ils iront en bus. Ah, tu vois.
Non, mais après, il y a la question aussi. Non, mais on plaisante, mais il y a le problème pour Rétafé, c'est pas encore s'il va pouvoir aller à Milan, Simonet.
Ouais, Rétafé, c'est pas. Remarque, il y avait les vols. La Roma avait un vol prévu demain, un vol charter prévu à 15h pour Séville. Elle ne peut pas partir. Donc, on attend de voir comment la UEFA, s'il arrive à trouver une dérogation avec l'Espagne, avec les gouvernements, pour faire partir les vols de l'équipe. Mais là aussi, est-ce que cette situation est si grave, doit permettre à la UEFA de faire des dérogations pour des matchs de football?
Bien sûr.
C'est un peu
compliqué. Tu sais que demain, à Séville, il fait 32 degrés. C'est incroyable, ça. Mois de mars, 32 degrés.
C'est pas très étonnant.
Mais en août, il fait 60.
Alors, en août, c'est insupportable, Séville. Ouais, non, en août, non. Mais en août, mais c'était la Landalousse, Séville. Enfin, il fait très, très chaud. Il peut faire 45, 50.
Bon, et pour finir, Barcelone-Naples, huis clos également confirmé aujourd'hui, la semaine prochaine.
Voilà. Cadeau, hein. Voilà. Oui, ben. C'était dans l'air, mais tu sais pas.
Sur le City Real.
Alors, le Real Madrid aimerait beaucoup. Pas que pour des raisons sanitaires que le match se joue à huis clos à City.
Ouais.
Donc le Real Madrid essaye de faire un peu de lobbying à ce niveau-là.
Les Anglais, on ne prenne pas le trop.
Ouais. Alors quoique, il y a 3 heures, il y avait une rumeur. En tout cas, les dirigeants de l'Atlético pensaient que le match de demain à Liverpool pouvait se jouer à huis clos. Ah oui. Finalement, c'était confirmé que ça allait être ouvert au public. Oui. Mais voilà,
le Real voudrait que ça soit à huis clos.
Bah oui.
Et par rapport à quoi?
C'est plus sportivement. Après, le public de City, c'est pas.
Mais qui c'est qui dit ça? En fait, c'est pas Zidane qui peut penser
ça. Mais c'est pas Zidane.
C'est Monaco qui a pris acte aujourd'hui du huis clos.
C'est pas Zidane. Des instances du Real Madrid disent attention, pourquoi ce serait pas huis clos là-bas?
Les instances, il y a quand même beaucoup d'anciens joueurs dans les instances du Real, non?
Non.
Il y en a? Non, il y en a pas.
En fait, les instances, c'est une personne, quoi.
Oui, je crois que tu tires des.
Oui, voilà. Voilà, en disant voilà, avantage, il y a pas forcément de public.
Lyon doit penser aussi
que c'est mieux. À Turin, son public.
À Turin, voilà.
Bien sûr, voilà, c'est pour ça.
Oui, sauf qu'ils ont peut-être pas vu Juve Inter. Enfin,
non, mais d'accord, que le président pense ça, ok, mais.
Tiens, dernière petite chose, un petit quiz.
Tu grattes un peu, donc tu peux gratter un peu, même si c'est.
Jean-Michel Aulas,
si c'est 10%, tu grattes Jean-Michel un 10%. Aulas, ça fait quoi quand tu vas faire du shopping dans les boutiques, tu cherches à gratter toujours un petit 5-10%?
Jamais.
Bon, bah voilà, bah, non, on fait pareil.
Ils t'offrent dans les trucs.
Bah, exactement. Tu y vas pour acheter, ils t'offrent.
Les gars, petit quiz. À Valence ce soir, la conférence de presse est toujours en cours d'ailleurs. Je vais vous faire écouter quelqu'un qui a fait le réglage micro. Et bien cette personne-là, vous la connaissez tous. Vous allez deviner qui c'est, écoutez.
Bien, je sais.
Ok. Mi sentite? Mi sentite in Italia?
Mais si, je sais, c'est Manardo.
Oui, c'est
pour ça que
je l'ai vu. Ah oui, on l'a vu.
Je l'ai vu voir de la
pluie.
Appelle-le qui nous raconte le huis clos.
Beppe, dimmi anche con il WhatsApp se mi sentite, per favore.
Ah, il n'y a personne, mais nous, on a l'enregistrement, comme on a des tenteurs de droit, et François Malardo qui, en fait.
Ti sentiamo, Francesco, ti sentiamo.
Qui, en fait, travaille aussi pour l'UFA, hein, parce qu'il est,
voilà. Vas-y, appelle-le qui nous raconte le huis clos, là.
Non, on n'a pas le temps, là. On
lui rend compte. Dernière chose. T'as besoin d'un point règlement, non?
Ben ouais, parce que là, ça serait bien. Mais là, je le vois.
Quel point règlement?
Parce que c'était les spécialistes règlement. C'était plus spécialiste des instances, plus pelouse, parce que pelouse est très bon. Mais là,
organisation des matchs.
Mais là,
tu veux dire que football, vas-y.
Mais là, pour de bon, franchement, là, il est dans son élément, quoi. C'est autre chose qu'à l'antenne. À l'antenne, il manquait de. Là, regarde, là.
Est-ce qu'on peut dire qu'il ajoute un arc à son flèche?
Ouais, un petit peu.
Bon, en tout cas, bravo François Manardo, toujours parmi nous. Dans quelques instants, on est de retour pour parler de l'autre match. Merci Fredo.
Adios Chicos, à demain.
Merci Simone.
Michel, Gilbert, oui. Gilbert, l'Atalanta vient de faire un communiqué en demandant à tous les supporters de ne pas sortir dans les rues à fêter ça, de ne pas aller à l'aéroport accueillir l'équipe, ni au centre technique, en raison de, comme on sait très bien, des raisons de santé.
Ah oui, puis dernier truc, voilà. La Youth League, Simone, il y avait l'Atalanta a joué aujourd'hui en Youth League contre Lyon, et Lyon s'est qualifié au tir au but. Il y a eu 3-3 et qualif de Lyon. Donc on aura Lyon et Rennes d'ailleurs en quart de finale de la Youth League. Rennes qui a gagné grâce au forfait des jeunes de l'Inter. Salut Simone, salut Fred.
Ciao.
Dans quelques instants, on est de retour pour cette fois aborder le dossier Leipzig-Tottenham. On va parler de Mourinho, on va parler de la méthode Leipzig et tout, bien sûr. Et puis ensuite, on parlera du PSG, les dernières infos à 24 heures, moins de 24 heures même, du match face au Borussia Dortmund. A tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et là, Jérôme Rotten également, messieurs. On va parler de Leipzig-Tottenham dans quelques instants, bien sûr. On attend avec impatience Paulo Breitner et Julien Laurence qui vont nous rejoindre.
On parle de jeu, je te fais mon petit comparatif.
Ah ben, c'est maintenant, parce qu'ils ne sont pas encore là, les deux. On reçoit effectivement beaucoup de messages de ce soir de supporters de Lyon, de Bordeaux, et autres qui disent inspirons-nous, les clubs français, de ce qu'on a vu ce soir.
Que
ce soit Leipzig ou concernant Bergame d'ailleurs, hein, on met tout dans le même sac.
Il ne peut pas y avoir de comparaison avec Monaco dans le sens où déjà Monaco a un budget surdimensionné, même en 2017, où ils avaient fait des énormes transferts, des Falcao, des Rames, des joueurs quoi, sur lesquels ils avaient mis des sommes très très importantes. On parle pas, c'est pas de ça du tout dont je parle. Moi je parle d'équipes qui chaque année, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, je me fous même du résultat à l'arrivée parce que l'Atalanta, sauf énormissime surprise, va pas gagner la Ligue des Champions. Mais il nous offre, c'est pour ça que j'ai appelé ça un bonbon, il nous offre du jeu.
Mais mets Leipzig dedans en fait, faut que tu parles des deux.
Bien sûr, Leipzig, l'Ajax l'année dernière. Si on élargit à l'Europa League, Salzbourg l'année de l'OM, c'est une super équipe. Ça joue au ballon, même s'ils perdent. On a eu des équipes, je parle pas des trois cadors espagnols. Parce qu'ils ont des moyens et tout. Mais les épopées de Séville en Europa League, les épopées, on peut parler des clubs portugais, même si on parle des deux gros, parce que quand bien même, c'est toujours beaucoup moins d'argent que nos gros clubs à nous. L'Ajax, on l'a cité. Nous, ça n'arrive jamais qu'on ait ce bonbon. C'est-à-dire l'équipe rafraîchissante qui va jouer au foot, qui va donner l'impression de s'être construit sur 2-3 ans, avec des joueurs achetés pas très cher, mais qui sont des bons footballeurs. Parce que dans cette équipe de l'Atalanta, il y a un mec qui est venu à Monaco.
Quel est le budget de l'Atalanta?
C'est 70.
Parce que Leipzig, attention, c'est gros, énorme budget.
Leipzig, c'est gros budget.
C'est pour... une différence.
C'est pour ça que.
C'est un gros budget, mais
Leipzig, c'est incomparable, en fait, les deux clubs.
Si tu prends ce soir, si tu prends ce soir Tottenham et Leipzig, Tottenham, c'est un club avec un entraîneur de renommée mondiale, qui, à mes yeux, est cramé, mais n'empêche qu'il fait encore partie du gratin mondial. C'est un énorme club de première ligue, historiquement et en termes de budget. C'est des gros transferts, une grosse masse salariale et une gestion qui a été bonne sous les années, dans la progression du club, très bonne avec Pochettino. Ça s'est arrêté, on est allé vers un entraîneur de renommée mondiale, on a fait 2-3 coups, ça marche pas bien. En plus, ils ont pas de bol, ils ont deux gros blessés importants.
Il y a plein de circonstances atténuantes.
Mais en face, tu as une autre politique, qui est celle, certes, d'avoir de l'argent, surtout pour le scouting, pour recruter des joueurs partout.
Mais parce que le budget, il est à plus de 500 millions, non?
Mais 300. Non, quand même.
300 et quelques.
Mais avec un entraîneur, Jérôme, avec un entraîneur, Nagelsmann, qui chez nous entraînerait en PH, parce qu'il ne pourrait pas entraîner en pro chez nous, parce que c'est fermé aux mecs qui n'ont pas été professionnels, ou quasiment fermé si tu ne payes pas une somme dingue. De toute façon, toutes les voies sont fermées pour ce genre d'entraîneur-là chez nous. à qui on donne une équipe et tout, et l'autorité, parce que Nagelsmann est un entraîneur, au-delà de ses magnifiques idées sur le jeu, très autoritaire chez nous, on lui chierait dessus dans tous les clubs.
Un mec. Et par ailleurs, très jeune. On a du mal aussi en France à faire confiance à des gars
On parle aussi de ça. On parle aussi d'un contexte.
Oui, il est jeune. Très jeune.
Nkunku, un joueur comme Nkunku qui est bon maintenant là-bas et tout. Ce genre de joueur-là, ils deviennent bons comme Ilicic à l'Atalanta, ou Pazalic qui est passé par Monaco qui n'a pas fait son trou, ou le mec qui était à Metz.
Après, ça, c'est dans les contextes.
Oui, mais c'est des affaires de contexte qui donnent un épanouissement à des joueurs où tu vois la force collective plus que la force individuelle. Ça, nous, c'est impossible. On n'arrive pas à le construire.
Bah,
et ça, moi, j'aimerais bien qu'on ait un jour ce kiff-là, mais on l'a pas. C'est pas possible, on l'a pas. Tu as une aventure comme ça, de temps en temps, qui arrive, mais on n'a pas ça.
Jérôme, c'est un
problème. Et ça, notre football, il est handicapé là-dessus. Et parce qu'on ne s'est pas travaillé.
Jérôme, ton avis.
Non, mais il y a des choses que dit Daniel où je suis.
Franchement, je vois pas ce qui peut être contestable dans ça.
Non, mais c'est
énorme.
Sur le constat des joueurs individuellement, parce que Nkunku qui s'éclate à Leipzig, oui, mais il aurait pu s'éclater autre part. Je pense qu'il n'était pas fait pour le PSG. Et moi, comme je t'ai dit,
il peut s'éclater quand il est dans un bon contexte.
Oui, mais après on peut pas savoir de toute façon. Là, j'ai pas une baguette magique en me disant si Nkunku était parti à Marseille, par exemple, qu'il s'éclaterait pas à Marseille avec Villas-Boas.
Je crois pas en Ligue 1, compliqué en Ligue 1.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Après, peut-être avec Villas-Boas, qui est un entraîneur.
Il y a des clubs qui tentent avec des entraîneurs. Villas-Boas en est l'exemple.
Villas-Boas, en France, il est en PH.
Ouais, non, mais.
Mais c'est la vérité, ça. Tu passes tes diplômes, tu sais comment ça marche.
Non, je l'ai passé, je les passe plus. Donc,
tu les passes plus. On a parlé avec des gens qui les passent il n'y a pas très longtemps.
Et oui, non, mais
on sait très bien qu'il serait comme Nagelsmann, il entraînerait en PH.
Il y en a qui passent à travers les. Non, mais oui. Ce que je veux dire. Regarde, Julien Stéphan, aujourd'hui à Rennes, il est arrivé. Non, mais.
C'est le mauvais exemple.
Mais c'est un exemple qui va contre ce que tu dis.
Mais
on lui a donné sa chance possibilité.
On lui a donné sa chance pour
Mais peu importe.
Tant mieux pour lui s'il réussit.
D'accord.
Et il est bon. Ce serait bien que lui réussisse à montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir été un pro pour y arriver.
Exactement.
Mais on sait néanmoins. Mais que si c'est pas le fils de son père, les portes sont fermées.
Peut-être, c'est possible. Ah.
Je dis ça comme un compliment pour lui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a donc ce contre-exemple ici, même si, comme
c'est
tu
pas
dis,
réellement
un
contre-exemple.
Mais après, il y a des clubs. On peut pas comparer avec Leipzig parce que Leipzig a un gros budget dans tous les cas et une politique qui est bien. On nous l'a expliqué pour l'eau souvent. Damien qui aussi nous a expliqué dernièrement avant ce tour-là. Donc ils bossent bien aujourd'hui, ça leur porte chance. Du moins, ce qu'ils mettent en place, c'est cohérent et très bien, tant mieux. Et on peut pas comparer Leipzig avec ce que fait l'Atalanta. L'Atalanta, en effet, c'est rafraîchissant parce que personne les attendait là, parce que c'est là, pour la plupart, la première campagne européenne en Ligue des Champions. Et les mecs se sont découverts entre eux, collectivement. C'est l'essence même du foot. C'est le collectif avant tout. Après, il y a des individualités qui brillent dedans. Et tant mieux. Et tant mieux qu'il y ait des petites surprises. Mais là où je te rejoins pas Daniel, c'est que en Ligue des Champions, ça arrive très rarement ce genre d'équipe. C'est un contre-exemple, bien sûr, Bergame.
Je te dis que tous les ans, les pays nous offrent ça et nous, on l'offre jamais.
Stop, on passe à la suite.
Mais parce nous, on l'offre jamais.
Et pour finir, juste
très vite.
Les clubs français, et on en parle souvent, il y a peut-être certainement un problème de niveau, mais il y a aussi une façon d'aborder la deuxième Coupe d'Europe, c'est-à-dire l'Europa League, de la respecter.
Julien,
bonsoir.
Rebonsoir.
Et surtout, je parle de jeu.
Tu n'as pas ça dans le jeu. Je peux pas te contredire.
Bon, voilà, merci.
Polo, est-ce que tu as été une nouvelle fois bluffé par l'Ajax de Leipzig?
Le bluffé, non, parce que je les vois tous les week-ends tout de même, mais je considère que c'est une très très belle performance. Aussi bien de match aller, je rappelle, c'est pas du tout évident d'aller gagner en Angleterre. Et surtout, j'ai évidemment apprécié la première mi-temps de l'Ajax, que c'est là que ça se joue. Je rappelle quand même que cette qualification est historique. Comme la qualification sortir des poules était aussi historique, ça fait encore un club jeune qui n'a pas de référence. Je constate aussi le fait que aussi bien Leipzig était, on parlait des pertes de ballon au milieu de terrain, des erreurs individuelles de tel ou tel joueur lors de ces deux rencontres contre Tottenham. Je me rappelle pas avoir vu une erreur individuelle, comme s'ils continuaient à progresser et qu'ils apprenaient justement de leurs erreurs. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On a beaucoup parlé de Nkunku ce soir, ses habits de sœur qui brillent. On a beaucoup parlé de Timo Werner. Et ben, on se rend compte du match du Upamecano qui est extraordinaire ce soir. Donc, oui,
c'est un joueur qui ressemble furieusement à
Cahuzac. Non, mais
Cahuzac.
C'est le même.
Et la même tronche.
Bah, tu rigoles, mais c'est le même.
Et vous avez parlé évidemment du collectif. C'est vrai qu'on connaît, mais c'est quand même des joueurs qui ont quand même aussi des certaines références. Hein, ça a l'air de rien, c'est tout que des internationaux, etc. Non, moi, ce projet m'intéresse de plus en plus dans le jeu, dans la façon de presser. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Et pourtant, ils font pas toujours les bons choix, dans la dernière passe. Par exemple, ce soir, le match aurait pu être plié beaucoup plus rapidement encore si.
Qu'est-ce que tu voulais qu'il soit plié parce qu'il a été plié.
Après 22 minutes, il menait 2-0.
C'était plié. Il n'a jamais été en danger.
Gérer
la deuxième période.
Non, mais pas existé. Il n'y a pas eu de match.
Non, mais t'as raison de citer les joueurs que tu viens de citer. Moi, Sabitzer, déjà depuis, je regarde les matchs, hein, je l'ai vu avant, mais depuis le match aller, je suis tombé amoureux de ce joueur vraiment dans le volume, la justesse de passe. Raison.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est son repositionnement, sur le terrain. Au départ, c'est un milieu offensif.
Ouais.
Et puis là, côté droit,
et là, il est plus bas.
Quasiment 6-8, ouais. Alors que il a pas forcément le volume. Et à côté de lui, il a Leimer, qui est en train d'exploser parce qu'il a 22 ans. Tiens, comme par hasard, deux Autrichiens qui seront d'ailleurs à l'Euro normalement. Le c'est ça. En fait, aussi.
C'est bien d'avoir des dépendances pour le recrutement.
Oui, c'est très intéressant.
Ça aide,
mais
ça aide. Hein.
Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de numéro 6 ou de vrai numéro 6 de formation.
Mais ça bouge tout le temps dans cette équipe, de toute façon. Ça bouge, voilà. Donc après, c'est l'entraîneur qui met ça en place. Dans ce dispositif-là, et c'est bien de le signaler, parce qu'il y a des entraîneurs, nous en France, qui nous mettent en avant le 3 derrière avec des joueurs de côté plus haut, le 3-4-3 ou le 5-3-2, ou je ne sais même pas.
Mais tu n'as pas une équipe où il y a cette générosité, où ça court.
Et tu ne connais pas les principes de cette tactique-là. Dire quand tu as d'un côté Angelino à gauche et de l'autre côté tu as Mukiele qui est un super joueur, vraiment. Moi, j'ai vraiment hâte quand tu vois la qualité technique de ce joueur-là, de débordement. Ouais, de le voir en équipe de France. Parce que quand tu te tapes, avec tout le respect que j'ai pour Pavard, qui n'est pas un arrière-droit dans tous les cas, on le voit quand il a le ballon pour aller centrer. Hein, j'ai eu mal à la tête quand j'ai commenté Chelsea-Bayern. Et pourtant, le Bayern a fait un grand match. Mais lui, il est au niveau descente, malheureusement. C'est très pauvre. Et quand tu vois la qualité de Mukiele, comment il s'est bonifié en allant là-bas avec cet entraîneur-là.
Jérôme, c'est très bien. Parce que là, tu parles sportif et je suis 200% d'accord avec toi. Mais moi, je voudrais juste donner un exemple dans les administratif, c'est-à-dire que c'est les présidents de club. Il y a quelques années, j'ai été invité pour le premier salon, c'était à Nice si je me rappelle bien, et donc on avait invité Christian Seifert, donc l'actuel responsable de la Ligue, qui est passé en deuxième derrière le responsable de la Ligue de la FA anglais. On a eu un show en Angleterre. Il y avait tout le foot français qui était dans ce show. Et le lendemain, il y avait le foot allemand et on devait être 15. Donc ça vient de là aussi la révolution. C'est-à-dire que moi j'analyse ça, alors quand je suis méchant, je dis ouais bah c'est normal, c'est les patrons du foot français, ils rêvent que d'une seule chose, c'est les droits de télé, c'est les droits
de la première ligue.
Mais on n'a jamais ces moyens-là. Le PSG représente tout sauf le foot français, ça n'a strictement rien à voir. Le cas de Monaco est particulier. Ouais. Et si on veut travailler, il faut aussi que les présidents de club se disent bah non, et si finalement j'avais pas une belle petite PME et que je faisais développer au fur et à mesure. Mais il faut aussi que ces présidents de club
du travail de fond. Regarde, Leipzig, c'est il y a 2 ans contre l'OM.
Oui.
L'OM élimine Leipzig. Leipzig joue mieux que l'OM sur les deux matchs, mais l'OM gagne et fait un grand match. Vraiment, c'était génial. Regarde, 2 ans après, la situation des deux clubs.
Avec un budget similaire. C'est pas avec comme si Leipzig avait
le travail de fond qui a été fait, l'augmentation de plus de moyens, mais par le travail, et l'OM qui a le fair play financier au cul. Qui sort d'une saison noire, qui va peut-être retourner en Ligue des Champions, mais on ne sait pas comment et pourquoi. Bon, ben voilà, quoi. Ça s'appelle le travail, ça.
D'accord avec ce que tu viens de dire. Mais moi, le problème du foot français, paradoxalement, ce n'est pas le sportif. C'est ceux qui sont aux commandes du foot français. Ce sont des administrateurs.
Oui,
ce sont certaines grosses fortunes françaises qui utilisent le club de football parce que ce sont des caisses de résonance.
Il n'y a plus de fortune française dans le foot, hein, Polo.
Il n'y a plus de fortune française.
À part Arène, il n'y a pas de fortune française. Hein. C'est soit du petit entrepreneur local, soit du mélange fonds d'investissement et entreprises de trading qui sont en train de se monter un petit peu partout maintenant.
Bon,
c'est terminé. Donc, en fait, tu n'as plus de clubs qui veulent monter des projets. C'est ça le vrai problème.
Autre problème. Pourquoi
Polo, il est tellement chaud avec les pieds qu'il est ouvert sa chemise jusqu'au nombril.
Je vois des investisseurs.
Et pour le quart de finale, je peux dire s'il passe, je peux dire que.
Il a deux équipes en quart, peut-être une autre demain soir.
Ça y est. Je peux dire que demain, le troisième bouton, il saute.
Messieurs, quand je suis parti en 2014. Oui. J'étais champion du monde et la finale 100% allemande en 2013. Je reviens cette année, je me fais bouler en première. Je récupère où l'Allemagne se fait bouler en 2018 au premier tour de la Coupe du Monde.
C'est vrai.
Donc il y a du boulot quand même. Hein. Ouais, c'est,
tu reviens de loin.
Chapeau l'artiste.
Reviens
de loin.
Bravo. Non,
mais attends.
Je vais finir. C'est,
très vite.
C'est l'échec de Mourinho.
Mourinho est-il le responsable de la foire?
C'est son échec. C'est son échec. Tu peux me parler des blessures de Son et de Kane et de Bergwijn et c'est tout à fait. Je l'entends très bien, mais c'est son échec. C'est son échec dans l'absence d'identité de son équipe, dans l'absence de structure. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas simplement qu'il a été battu tactiquement par Nagelsmann, même s'il a été humilié par Nagelsmann. C'est aussi que son équipe n'a jamais rien montré au match aller, au match retour, dans sa structure, dans sa créativité. Dans sa solidité défensive. Non, pas beaucoup plus. Ça fait 6 matchs maintenant sans victoire d'affilée, toutes compétitions confondues. Il y a eu l'élimination à domicile contre Norwich en Coupe d'Angleterre, qui est une humiliation en soi, au tir au but. Il y a ces deux matchs contre Leipzig qui sont deux humiliations, surtout celle de ce soir, bien sûr, vu l'étendue du score. Mais c'est son échec à lui, c'est sa responsabilité à lui, avec certes des joueurs. Aujourd'hui, après match, il nous a fait une démonstration en interview où c'était. Ben oui, ils sont très forts, hein. Ils sont très forts devant, ils sont très forts au milieu, ils sont très solides derrière. Nous, on a fait plein d'erreurs, ils n'ont pas fait d'erreurs. Et moi, j'ai des joueurs qui ont des gros potentiels, mais qui les expriment pas.
Comment donc ça, c'est pas sa faute, quoi.
Comment ça, plein d'erreurs? Voilà. Attends, il y a la passe, l'avant-dernière passe décisive d'Auriel, à la tête dans la
profondeur,
elle est belle quand même.
Le premier but de Lloris.
Il lance bien.
Ah, mais à aucun moment, il y a eu une remise en cause personnelle, si tu veux, Daniel. À aucun moment.
Hugo Lloris était vraiment dans un mauvais jour, en plus, aujourd'hui.
Allez, on va finir avec Richie, les gars.
La passe en profondeur d'Auriel, elle est belle, quand même.
Richie, bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Alors toi, t'es supporter de Leipzig et tu les suis depuis 2011.
Ah non, moi je suis supporter du RB Leipzig. Parce qu'en Saxe, on dit Leipzig. Donc,
je dis comme Polo, moi. Donc, pardon,
moi aussi. Dans la région de Francfort, tout ça, on dit Vénich. On prononce Leipzig. Mais en Saxe, dont Leipzig est la capitale,
ça s'appelle
on dit
Leipzig. Patois.
Comme s'il y avait un cas à la fin, quoi.
Très bien. Donc,
En deux minutes, excuse-moi, enfin en 30 secondes, comment t'en es venu à supporter cette équipe? C'est étonnant.
Ouais, parce que c'est une longue histoire, quoi. J'ai beaucoup d'amis là-bas, je vais très souvent là-bas.
Mais à Leipzig, t'as beaucoup d'amis là-bas?
Ouais.
Ah ouais, c'est dingue ça.
Je vais très souvent à la RB Arena. En fait, je suis allé la première fois, c'était il n'y a pas très longtemps finalement.
Excuse-moi, parce que là, j'ai pas percuté là. Tu m'as dit que Leipzig était la capitale de la Saxe?
Ouais, c'est la ville principale de la Saxe.
Non, mais c'est pas la capitale.
Ouais, c'est peut-être pas la capitale.
C'est Dresde.
Mais à vérifier quand même, parce qu'il me semble bien que c'est la capitale.
Non, c'est la capitale économique. La capitale administrative, c'est Dresde.
D'accord, peut-être, ouais. Ok. Les mecs, vous savez ce que vous faites si vous voulez polémiquer sur Leipzig ou Leipzig? Demain, vous appelez l'office du tourisme de la.
Non, t'as raison. Non, mais nous, moi, c'est ton histoire qui m'intéressait. Je trouvais ça dingue. Voilà. Mais à l'époque, c'est déjà Red Bull quand tu commences à devenir supporter de l'équipe?
Non, c'était le locomotive.
Non, mais en fait, c'est pas il a pas racheté le locomotive, hein, le milliardaire. Hein. Il a racheté un club qui était en 5e division.
C'est ça, oui.
L'ex-locomotive était en 3e, mais le gars a fait monter les enchères. Donc, en fait, ils sont rabattus sur un club qui était plus bas. Et donc, ils sont montés de division. On est monté de division tous les ans, sauf en Bundesliga 2, on est resté 2 ans. Quoi.
Tu les vois aller jusqu'où, là?
Bah, je les vois bien, parce que quand tu vas à Leipzig, tu croises souvent les joueurs. Le soir, ils bouffent tous ensemble au resto, etc. C'est un club assez soudé de l'intérieur. Et ils ont un bon fond de jeu. Alors, c'est beaucoup, quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est du jeu quand même en contre. Mais ils commencent à produire aussi du jeu, à faire des attaques placées, etc. Et ouais, je pense qu'ils peuvent faire une bonne demi-finale. Après, quart de finale, ils sont pas obligés de se qualifier. Ça va être du 50-50, mais ils ont une chance, quoi.
Merci, Richie. C'est un génie, ce Richie. Ouais. Tu vois, je lui dis, tu les vois aller où?
Et il a dit, je les vois aller au resto.
Il est au resto.
Par contre, il est où? Par contre, il est où? Je sais que j'avais pas.
Bisous, Richie. Gilbert, je vois souvent en ville, ouais.
Par contre, il a dit quelque chose de très important et c'est l'idée que j'avais tout à l'heure. Comment se fait-il qu'en Allemagne, des investisseurs, y compris des milliardaires, alors qu'on n'arrête pas de nous gonfler avec le 50 plus 1 en disant on peut pas investir, les investisseurs vont construire les clubs dans les divisions inférieures amateurs pour monter un projet global et arriver en Bundesliga, alors qu'en France, tous les investisseurs qui arrivent rachètent des clubs de L1 sans penser des projets globaux. Et moi, j'ai juste une question comme ça qui m'intéresse.
Excellente question. Il est énervé, Polo.
On pourrait en reparler dans un instant de 3 heures en prenant le temps de débattre. Alors on n'a pas le temps. Dans quelques instants, on est de retour avec toutes les infos. Coronavirus et PSG, il y en a plein. Et puis, Polo, je vous rappelle.
Sont gentils, les gens.
Stop, c'est toi. Je rappelle que vous pouvez gagner vos places pour la finale de la Ligue des Champions. Depuis ce soir, vous envoyez ouais. Finale par SMS au 732-16. Finale par SMS au 732-16. L'After vous régale. L'After vous offre le vol. L'After vous offre l'hébergement et les places de stade à Istanbul. C'est le 30 mai prochain.
Profitez-en. Donc, c'est comme les places de PSG Dortmund. On l'avait dit en studio avec nous.
Il fallait que ce soit toi. Vous envoyez finale par SMS au 732-16 pour tenter votre chance.
Ou studio.
A tout de suite.
Par SMS.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Paulo Breitner et Julien Laurence. Le PSG demain soir face à Dortmund. Mbappé encore absent de l'entraînement aujourd'hui. Alors, au club, on explique qu'il a une angine. L'équipe annonce ce soir qu'il a fait un test quand même sur le coronavirus. Ouais. Bon, mais l'équipe reste au conditionnel, donc à suivre. Hein. Bon, a priori, c'est une angine. Pour Mbappé, bon, enfin, il ne sera pas à 100% demain. Donc, Tourelle l'a dit.
Qu'il a fait le test et qu'il est négatif.
Non, on n'a pas le résultat du test.
Ah bon ?
Il a fait le test et le résultat tomberait ce soir ou demain.
Bah, j'ai mal lu alors.
Hein, non mais c'est
problématique. Alors il y a eu une évolution depuis tout à l'heure.
Dans tous les cas, c'est problématique. Même s'il est là demain, c'est vrai que c'est mieux de préparer un match.
Est-ce qu'il va être titulaire, on ne sait pas.
Non, Mbappé test négatif.
Je pense que dans tous les cas, il sera titulaire s'il a plus de fièvre et s'il est apte à jouer. Après, c'est toujours pareil quand tu t'entraînes pas.
Et l'équipe qu'on a lancée hier et se confirme aujourd'hui. Hein.
Depuis 48 heures avec le groupe, t'as beau faire des petits efforts à l'intérieur parce que c'est ce qu'il a dû faire ce matin pour transpirer un peu. T'arrives quand même diminué et ça c'est.
Oui, c'est logique. Ouais, il va partager le match avec quelqu'un d'autre. Quoi.
Non, mais surtout lui a besoin d'avoir beaucoup de peps, de la fraîcheur, de trucs. Donc c'est aussi ça, c'est problématique. Mais bon, après, ça n'empêche pas que des fois, il y a des contre-exemples. Hein, sous antibiotiques, en étant malade, tu t'entraînes pas depuis 2 jours. Et à l'arrivée, tu te motives, tu arrives à te motiver et tu veux faire un excellent match. C'est après qu'il sera très fatigué, mais ça, on s'en fout. Ce qu'on lui demande, c'est d'être très bon demain.
Donc voilà sur le PSG, donc il n'y a pas plus d'infos qu'hier en fait, hein, on a donné la quipe hier, elle se confirme ce soir, la seule nouveauté c'est évidemment Mbappé. Alors autre chose quand même, les supporters parisiens ont lancé un appel pour se regrouper demain en dehors du Parc des Princes. Luis Fernandez a annoncé qu'il irait d'ailleurs parmi les supporters demain, donc pour qu'on les entende depuis l'intérieur du stade, tout ça avec l'autorisation de la préfecture. Hein. Donc,
non, c'est bien qu'ils aient donné.
Donc en fait on fait un huis clos à l'intérieur, mais en fait il y aura beaucoup de monde à l'extérieur, donc bon, je peux toujours se poser la question de la pertinence du truc, mais enfin bon.
Il n'y aura comme pas 20 000 personnes dehors. Hein.
Bah, je ne sais pas, on verra.
Non, mais il n'y aura pas 20 000,
c'est sûr. Ils ont lancé un appel ce soir, le collectif Ultra Paris.
Ils ont fait ça à Valence.
Ils ont fait ça. Ouais.
Et puis les infos coronavirus, Bayern-Chelsea à huis clos, ça a été confirmé, les gars, tout comme le prochain match de l'Allemagne, hein, Polo, ouais. Match international. En France, vous avez suivi ça aujourd'hui, tout à huis clos, donc jusqu'au 15 avril, la Ligue 1, la Ligue 2, l'équipe de France, le match qui devait se dérouler à Lyon est rapatrié au Stade de France, 2 matchs au Stade de France.
À huis clos.
En Espagne, 2 prochaines journées à huis clos. Au Portugal, on dit carrément huis clos jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, tout le monde suit, sauf les Anglais.
Il n'y a que nous pour l'instant.
Voilà, faut jamais rien comme tout le monde.
Déjà.
Voilà. Donc à.
Où ton produit
avoir...
là, pour les mains là, toi.
Il y a beaucoup de cas.
340 et 5 décès pour l'instant.
Oui, c'est quand même beaucoup moins qu'en Europe.
Beaucoup moins que dans le reste des Européens.
Ouais, et puis la finale de la Coupe de la Ligue pourrait être reportée. Le 4 avril est prévu le match entre l'OL et le PSG. Ça, c'est la dernière, etc. Donc, sûr qu'on remette une coupe devant personne. Bon. Donc là, on réfléchit sérieusement à la reporter plus tard. Voilà, cette finale de la Coupe de la Ligue. Bah, ça, je.
Dans le mois de mai.
Bah, je sais pas.
Là, ça, à mon avis, ça va être peut-être 3 jours avant la finale de la Coupe de France ou un truc comme ça.
Là, je ne sais pas.
La finale de la Coupe de France, c'est le 26. Pour l'instant, elle n'est pas reportée, celle-là. Mais s'il prolonge le huis clos, à mon avis, elle va être reportée aussi. Hein.
Ils n'ont qu'à faire la Coupe de la Ligue pour remplacer le machin du mois d'août, là, le Charity Shield. Comment ça s'appelle
chez nous? Ouais, c'est ça, le trophée des champions.
Trophée des champions.
Oui, enfin là, ça veut dire que tu ferais.
Sur une autre année.
Parce que t'as un enjeu peut-être de Coupe de la Ligue. Non, puis. En rentrant en Coupe d'Europe, si par exemple.
Trophée des champions, ça va être.
Impossible d'aller
champion après une compétition internationale.
C'est impossible, parce que regarde, le vainqueur de la Coupe de la Ligue est qualifié pour l'Europa League. Si c'est Lyon, il faut que tu fasses tes tours préliminaires en juillet.
Oui, c'est vrai, monsieur.
Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore comme info à vous donner pour conclure ce soir? Ah oui, Favre a dit, j'aurais dû vous le dire tout à l'heure.
Tremble, il a dit.
Il a dit, on ne va pas défendre, on veut déstabiliser le PSG.
Très bien.
Voilà ce qu'annonce
Favre. Le journal Bild cherche à déstabiliser l'actuel coach du PSG en disant, est-ce que Dortmund va virer une deuxième fois?
Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est énorme.
Ah, c'est drôle.
Ils sont bons, Bild.
Ils sont cons, ces Allemands.
Et puis sinon, Ronaldinho, toujours en prison au Paraguay, hein, on compte les jours. Voilà, donc
et tu crois vraiment que
la justice paraguayenne a rejeté la demande en liberté.
Je supporte l'Union de Berlin.
Messieurs, c'est fini pour ce soir, vous serez là demain?
Demain, oui.
Ah oui, Polo.
Et au stade, en plus.
T'es pas au stade, demain?
Polo, demain, est au stade. C'est un des rares autorisés avec Jérôme.
Oh, il est avec
moi. On est en VO, demain.
T'as vu?
Il a encore la crède autour du cou.
La crède,
Polo aussi, il l'a. C'est fini pour ce soir. Merci, Julien. Merci, Polo. Merci, Daniel. Merci, Jérôme. Demain, nous serons là dès le coup de sifflet final, bien sûr, de PSG Dortmund pour un nouvel after Ligue des Champions. À demain soir.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.